Le Dahu. Le Dahu. Le Dahu. Le Dahu. Le Dahu. Le Dahu. Le Dahu à flanc de culture.
La Pointe Courte, quartier de Sète, village de pêcheurs au bord de l'étang de Thau, extrêmement typique du fait de sa position excentrée et parfaitement délimitée géographiquement. Canal, étang et échangeur se chargent de former son périmètre. En voiture, on y accède par une seule route, située à l'entrée de la ville. Tire son nom de la forme pointue de la jetée, marquant la jonction entre l'étang et le canal par opposition à la pointe longue. La jetée d'en face, effectivement plus longue. À Sète, on dit couramment la pointe. Ses habitants sont appelés les pointus ou mours noirs. Raymond Covès, c'est-à-dire traité vivant et coloré du parler sétois et du pays de Thau.
Je m'appelle Georges Brel. Je suis né à la Pointe Courte. Exactement, je voulais dire, il y a un bar-restaurant et bien je suis né au-dessus. Le 8 avril en 1941. Moi je suis né ici, mon frère ici, mais quand même. Mon papa était né à Bouzigues. Il est venu de la quartier de Pointe-Courte, il avait 6 ou 7 ans, avec ses parents, quoi. Parce qu'il se pêchait beaucoup de coquillages sauvages dans les canaux, dans la ville de Sète, quoi. Je suis né ici, à l'école, à 14 ans, tu la quittes, tu es déjà pêcheur. Déjà, avant de faire la pêche, tes parents, ils t'ont mis dans le métier, quoi. Et puis après, ils commençaient à travailler. J'étais un escrime maritime. Hein. Un escrime maritime, c'est celui-là qui a un rôle d'équipage. Quoi. Et jusqu'à 20 ans que je partais à l'armée, hein, j'étais sur le rôle de mon papa. Voilà. Et puis en revenant de l'armée, je viens patron. Voilà.
Comment c'était la Pointe Courte quand vous aviez 14 ans?
C'était un des plus beaux quartiers de la ville de Sète. Parce que tout le monde vivait dehors et le travail qu'il y avait. On était 250 personnes, entre 240 et 250 personnes dans le quartier. Après ça a évolué, quoi, ça. C'est venu touristique, il y avait des maisons qui se sont vendues, il y avait des familles et 5-6 enfants, les parents s'en vont, qu'elles sont filles, on le garde, on le vend, et voilà, il s'est passé un peu ça dans le quartier. Nous, on en a vécu, là, et il s'est venu un peu là, dans les 20 ans. En arrière, quoi. Que ça, le quartier a commencé à changer. Et la pêche aussi, ça a changé beaucoup. L'étang de Thau, c'était une mine d'or. Pêcher des moules, des huîtres, des palourdes, des oursins, des escargots, tout ça. Maintenant, à part les oursins et les escargots, il n'y a plus rien. Maintenant, vous vivez de la pêche saisonnière, hein, la dorade, là. À partir du mois de septembre, là, c'est la fin octobre, l'anguille, jusqu'à novembre, décembre, là, et puis fini. Si vous n'avez pas notre travail à côté, vous ne pouvez pas vivre. Et on va dire là, mon fils, il fait la pêche, hein, il a, comme on avait nous, des choses tricoles, hein, l'élevage de moules, l'élevage d'huîtres. Mais là, avec la chaleur, là, tous les moules, ils étaient, ils sont morts. Tellement qu'il a fait chaud que l'eau était chaude. La moule, c'est pas comme l'huître, elle est plus fragile, quoi.
Parce que moi, je suis né ici là, en 1954.
Josian Isoire.
J'ai 64 ans, moi. On n'irait pas, hein. Non. Pourtant, je travaille, tu sais. Depuis l'âge de 11 ans, je travaille, hein, à la pêche. Et en 1954, c'est là où Agnès Varda a tourné le film La Pointe Courte. Avec Philippe Noiret, c'était son premier film. Sylvia Montfort, je me rappelle, et mon père il y est sur le film. Et moi je suis né en 54. J'ai la cassette à la maison, je me regarde, oh, tantôt je vois mon père. Hein. Et la vie avant c'était familial, c'était tout le monde mangeait dehors, des tables, on restait dehors l'été jusqu'à 3h du matin. On dormait, nous les portes ouvertes et tout. Et avant, dans le quartier, il y a à peine, depuis 1997, on a le tout dans l'égout. Avant, le pipi, le caca, on le jetait au canal, ou là, ou entre deux barques. Hein. On a le tout dans l'égout depuis 1997, pas plus. Hein. C'est François Liberty qui l'a fait. le maire, un communiste à l'époque, avec André Libranot, le premier social, il était premier adjoint. Moi, on me lavait d'un cuvier en fer à la fontaine, au bord du canal. Il n'y a pas d'autre chose. Avant d'aller à l'école, j'allais au parking, là, c'était un chantier naval. Et j'allais faucher du bois pour allumer le feu pour mes frères et sœurs. On dormait à 10 frères et sœurs dans 3 grands matelas par terre. Alors, j'allumais le bois, je mettais le charbon, j'allais à la fontaine me laver les mains, ou, bon, ou à la maison avec le cruche d'eau, et je partais à l'école. Oh, les riches étaient d'un côté et moi, je n'aime pas l'écart. Tout ça, ça m'a marqué quand même. Et l'hiver, pour se chauffer, on n'avait pas le chauffage électrique, ni rien. Hein. On mettait des briques rouges hein, dans le feu de bois, ou alors des bouteilles de limonade, toi, avec de l'eau. Et quand c'était chaud, on se chauffait les pieds. J'ai pas fait la guerre, même fait de 14-18, ni 39-45, même 20. Je sais d'où je viens. C'est pour ça que je suis resté quand même simple, hein, abordable, hein, vous voyez. Tu as d'autres questions hein. Non. Justement, je me suis marié à... Je me suis marié... Bon, ma femme était enceinte, et comme il n'y a pas de commodité, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de camion, il n'y avait rien. Et depuis, j'habite derrière l'ancienne caserne des pompiers. Mais je suis là tous les jours, du matin au soir. Je rentre que pour dormir. Moi, je ne peux pas rester chez moi. J'habite dans une résidence. Je m'étouffe. Il me faut rester ici, voilà. Il me faut voir l'eau, le ciel, le temps. Par contre, au bord de la mer, c'est pas pareil. La mer, c'est une nature morte, hein, pour moi. Que l'étang, il y a toujours des nuages. On voit le bar où la rue des Bains en face. La station thermale, hein, on voit les cabanes en bois, on voit les bateaux. Quand la mer, quand t'as regardé au bout de 5 minutes, t'emmerdes. Je préfère mieux rester là. Et puis je suis né ici. D'ailleurs, ma mère, elle a eu les douleurs dans une barque, de justesse. Hein. Sinon, elle aurait accouché dans la barque. J'aurais été né, moi, dans la barque.
Je dis à tout le monde.
Georges Brel.
Les derniers, les vrais pointus d'ici, qui étaient pêcheurs, et je suis pas encore de l'âge à partir, mais quand même, j'ai 77 ans, hein, moi. Mais comme mon fils, 52 ans, tout ça, dès qu'il va être à la retraite, les 5 ou 6 pêcheurs du quartier, là, il n'y aura plus un pêcheur. Et ça viendra, toutes ces cabanes qu'il y a tout autour, là, ça volera, et il faudra que ça soit le Saint-Tropez du bassin d'Otto. Ça a été conçu comme ça, hein, là, c'est une cabane en bois, je ne sais pas, c'est pas des maisons, quoi. Il y a un peu de matériel, où ils font des déjeuners. Mais eux, c'est c'est parce que ça fait, ils se sont mis sauvagement, quoi. Il n'y a pas de demander s'il y a de la place, s'il veut construire, des choses comme ça. Donc, ça, c'est fini, ça. C'est une chose aussi qui était très bien dans le quartier, c'est qu'il y avait une équipe au football. Tout ce qui était sportif, la danse, tout, les fêtes de quartier. La Pointe-Courte, c'est les plus belles fêtes de quartier qui se faisaient. Avec des grands orchestres qui venaient et tout. Maintenant, elle se fait toujours. Mais c'est pas comme avant, quoi.
Et avant, dans le quartier de la Pointe-Courte, c'est pour ça que les gens y viennent, c'est plus comme avant. C'était que des pêcheurs.
Josian Isoire.
C'était bouillant, c'était... Il y avait du bruit, du mouvement. Et maintenant, il n'y en a plus des pêcheurs. J'ai mon beau-fils, il a 36 ans, et il dépose le bilan. Et Macron, lui, le ministre de la Mer, là, pas qui sait, il lui a envoyé une lettre, comme quoi, il donne 30 000 euros pour abandonner le petit métier. Où vous allez avec 30 000 euros? Vous ne pouvez pas acheter un commerce en ville. Hein. Vous ne pouvez pas aller. 30 000 euros. Il est marié, il a deux gosses. Hein. Mon beau-fils, ma fille. Enfin, quand même. Hein. Ils ont tout fait pour le faire partir. Et ils y sont arrivés. Parce que l'État, c'était une mine d'or à l'époque. Hein. Une mine d'or.
Ici, là, tu as un vieux monsieur qui est un ancien ami, de très grand ami, un des très proches de Georges Brassens.
Pascal Larderie.
Parce que Georges Brassens avait un petit bateau là derrière, là, dans la Pointe-Courte, qu'il allait se balader sur les temps de taux avec ses copains. Et là, je ne sais pas là-bas, mais là, c'est un copain de Josian, là, c'est un ennemi de Josian. Il y a tout. Bon, il y a quand même pas mal d'ennemis. Et puis alors, voilà, hein, dans le sud. Hein. Tu vois, je veux dire, le Front National monte terriblement ici. Faut quand même, en sous-jacent, il faut quand même faut le savoir. Et à la Pointe-Courte en particulier. Même on peut carrément dire que même si on regarde les résultats des élections ici, c'est catastrophique.
C'est quoi comme population? C'est des gens qui ont un certain âge ici, plus une partie de saisonniers, enfin de gens qui viennent que pour l'été?
Une très grande partie de fils et petits-fils d'immigrés italiens, espagnols, pieds noirs. Mmh. Surtout, pas pieds noirs dans ce quartier, mais surtout pêcheurs, espagnols, italiens. Donc c'est tous les immigrés. Oui. Ben oui. À part la femme, Josian, il est français, il s'appelle Isoir, donc... Non, on peut pas dire, mais ici, il y a plein de familles très connues qui sont des familles issues de l'immigration, mais il y a d'il y a 70 ans, 80 ans, 100 ans, allez, on va dire, entre l'époque de l'Italie, ou on va dire avant et après la guerre, Mussolini, quoi. Tous les communistes qui ont fui le fascisme en Italie et qui s'apprêtent à aller voter aujourd'hui, les enfants, les petits-enfants, pour la même chose, c'est craint. Aujourd'hui, par exemple, le président du port qui appartient à la région, qui est un ancien ministre communiste, mais bon, qui est devenu bien bien sauce, on va dire, Guesso, il s'appelle Jean-Claude Guesso, je ne sais pas si tu as entendu parler, il était ministre sous Mitterrand. Il vient d'annoncer que le port de Sète proposait d'accueillir l'Aquarius aujourd'hui, là. Je peux te dire, tu vas voir sur la page du Midi Libre, où ils ont annoncé ça ce matin, que Guesso avait fait cette déclaration, tu verrais le torrent d'insultes et de racistes qui est déversé sur les commentaires de la page du Midi Libre. C'est improprement hallucinant, moi ça me fait peur. Hein. Franchement, j'ai peur, moi. Je fais depuis 18 ans, mais des municipales en 2020, on se demande ce qui va se passer. On ne sait pas trop, pour l'instant, on n'arrive pas à savoir qui c'est qui est, que les méchants, ils vont mettre... Ils vont mettre devant. On a peur, moi j'ai peur qu'ils envoient la femme à Ménard. Moi je pense qu'elle va aller à Agde, ça sera encore plus facile pour elle.
Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. Les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde.
Ma mère est italienne.
Josian Isoir.
Elle est de Cetara. Mon grand-père et ma grand-mère de Calabre. Je veux dire, hein, ils ne parlent pas le mot français, mais... La macaronade, j'en ai mangé, je ne mange plus maintenant. Hein. C'est pour ça que j'ai un gros ventre, peut-être. Hein. Et mon grand-père, il était pêcheur, il était venu à l'époque, de, vous savez.
De
il était venu ici, là. D'ailleurs, Sète, c'est 90% de pêcheurs, hein, de pêcheurs italiens. Sète, c'est une ville 80% italienne. Et mon grand-père, moi, Papé Landi, Jean-Mi Landi, italien. Et il faisait la pêche à la mer, là, et il faisait macaronade à la cigale.
La cigale, voilà, la cigale de mer.
Il n'y a rien à manger, la cigale, mais ouais. C'est le goût. Malheureux, il n'y a rien de meilleur. Ouais. Au mois de juin, il se pêche.
Plus les macaronas de la cigale, voilà. C'est fini
et
ça.
Moi,
hein.
j'étais pêcheur pendant 40 ans à l'état de notre.
D'accord.
Et c'est ici que je triais le poisson, les coquillages, mais maintenant, il n'y a plus rien.
Il n'y a plus rien.
Comment
ça se fait?
Parce qu'il y a des magouilles en dessous, ils veulent en faire un truc touristique.
Ah, voilà.
Avant, ça s'appelait l'état de notre. Maintenant, ça s'appelle le bassin de notre. Mm-hmm. Donc, bientôt, ils vont commencer les travaux à la Farge là-bas. Ils vont faire. Et c'est pas fini. Ils vont faire trois pour appeler dans la rue de Bain. Je sais, on est cuit. Ils sont arrivés au bout de 50 ans, on nous foutra dehors.
Voilà. Tu crois, toi?
Voilà. Hein?
C'est aussi parce qu'il n'y a plus de poissons. C'est aussi
y a plus
pour
de
ça.
Poisson, y a plus de
paroles, ça a été tout raclé, mais parce que ça a été tout pêché,
non,
tout ramassé.
C'est pas une question de ça.
Tu crois?
C'est pas une question de ça. C'est vrai que les chalutiers, ils ont fait du mal.
Oui.
Alors pourquoi on vous appelle le Robert Redford alors?
C'était un amusement quoi.
Georges Brel.
Toujours, là, une coiffeuse, là, c'est un ami que je connais toujours. Elle me dit toujours, tu ressembles à Robert Redford. Et ça, les copains, ils disent, oh Robert Redford. Or, c'est pas, le jour que Rémi Sautier a tourné ce petit film là, quand il passe là, quand j'arrive, bien, il y a Robert Redford. C'est qu'en ville, tout le monde qui me voyait, oh, Robert est fort, tu vois. Ah, ça fait rire, quoi, c'est rigolo, quoi, c'est pas.
Moi, c'est plus flatteur que de ressembler à Bourville, quand même.
Ah oui, c'est vrai. Parce que Robert est fort, c'était un beau mec, comme moi, maintenant. Voilà.
Mais les chalutiers, on dit qu'ils ont tout massacré. Peut-être que c'est vrai.
Josian Isoir.
Mais à cause de qui ils ont tout massacré? Parce qu'à l'époque, moi, je l'ai connu. Les gens dans la maritime, ils étaient en combine avec eux. Vous comprenez? Ils se gonfraient de poissons. Ils ramassaient des petites anguilles, mais alors comment? Des anguilles où, tu sais? Et le camion italien, il venait deux fois par semaine à l'Italie, oxygéné et tout. Il achetait les petites anguilles, comme je pourrais vous dire. Hein. Comme ça, hein. Les Italiens, ils ont été moins cons que nous. Ils ont fait l'élevage en Italie d'anguilles. Vous comprenez? Parce que ici, à Noël, en France, c'est la denne ou la langouste. Là-bas, c'est malheureux. L'anguille, c'est le caviar en Italie.
Oui,
voilà. Alors, et dans ces filets-là, regardez-moi. Comment vous voulez que ça passe, ça, là? Les poissons. Regardez. Et après, ils te parlent à la télévision, dans les journaux. Ils ont arrondi la main aux chalutiers. Et regardez ce qui se passe dans tous les étangs d'Europe. Hein. Comme à Frontignan, comme à Aubagna, c'est partout. Regardez. Oh, le matin, les pêcheurs, mais quand ils lèvent le filet, toute la nuit, s'il fait mauvais temps, le poisson, il a bataillé à l'intérieur avec les vagues, le courant, les algues, un peu tout. Et le poisson, il est mort. Les alevins, en naissance, ils sont morts. S'il n'y a pas de bébé, il n'y aura pas d'adulte. Non?
Voilà.
Palourde à la sétoise. Recette d'Alain, de chez Alain. Pour 4 personnes, 2 heures de repos, 10 minutes de préparation et 10 minutes de cuisson. 1 kg de palourde, 500 g de spaghettis, 1 demi-litre d'huile d'olive, une tête d'ail, un peu de piment, du sel et du poivre. Faire dégorger les palourdes après les avoir rincées, les plonger dans l'eau salée pendant environ 2 heures. Mélanger les ingrédients dans un saladier. Ouvrir les palourdes en les jetant dans une casserole et les cuire sans rien ajouter. Une fois ouvertes, les verser dans le saladier et mélanger le tout. Faire cuire les spaghettis, y ajouter vos palourdes et servir. 7 Léal, recette des commerçants, édition dans la boîte. Librairie L'Échappée Belle.
Les filières, il y a des coopératives où ils reçoivent le filet de pêche.
Georges Brel.
Mais maintenant, quand même, il faut le commander. Il fallait à la coopérative dire je veux tel filet. C'est des commandes qu'ils font. Dès qu'avant, on pouvait acheter, il y avait des stocks. C'est fini, ça. Il n'y en a plus. Il faut demander, tu vas acheter, il me faudrait ça. Ben, alors, tu le recevras dans 15 jours, dans des choses comme ça. Quoi. Mais on ne risque pas d'aller acheter de la marchandise, comme on va, mettons, à Palava. Oh, mon petit tour. C'est mon arrière-petit-fils. Il est magnifique.
Alors là, on rentre dans votre... C'est quoi? C'est un garage?
Vous voyez? Ça arrive, hein? Comme j'ai pendu, on y adapte, vous voyez, les flotteurs.
Voilà.
Il y a la corde plombée. Et par là, ça c'est par là. Donc, ça c'est le rouleau. Vous voyez? Là, j'y mettrai les flotteurs.
Alors ça, c'est une corde verte.
Et après, ça, vous voyez, la corde plombée. Essayez de le soulever.
Alors c'est quoi dans ce sac?
C'est du plomb.
Ah, mazette.
Et ça arrive, vous voyez, par c'est commandé. Et quand ça arrive, tu t'appelles au téléphone, voilà, ton matériel est arrivé. Bon, c'est le gars que j'y monte, déjà, c'est une habitude, il me connaît. Bon, il me disait, genre, bien, je te commandais ça, tu me montes ça, et voilà. Ça m'occupe. Passer le temps, voilà.
Mais alors c'est tout en plastique, c'est ça,
ça
là.
C'est celui-là. C'est un nylon, ça.
Ah, du nylon, pardon.
C'est le nylon, ça.
Bah, les cordes aussi, là, ça aussi.
Ça, là, ce rouleau, il fait 200 mètres. Alors, demain matin, je vais le prendre, je vais le tirer. Parce que toujours, ça se monte un peu. Alors, je débobine bien, je tire 3-4 fois, et puis j'enroule, et puis on y passe. On y met les flotteurs dedans, et puis un larme dessus. Voilà. Ça pour les flotteurs et puis la corde plombée, c'est que je vous ai fait soulever le poids.
Voilà. Et alors là, il y en a plein d'autres quand même, des filets.
Alors, ça,
il y en
c'est ces filets pour principalement pêcher la dorade, le loup, beaucoup autre chose, mais principalement la dorade. Ces filets qui sont posés complètement à fond, ils font cette hauteur à peu près dans le fond. Et là, c'est pareil, voilà, les plombs, ils le mettent à fond et vous voyez, il y a les flotteurs pour le maintenir. Mais ça, c'est comme au fond de l'eau. Dans l'eau, ça fait à peu près sur hauteur, vous voyez.
À hauteur de deux tailles.
C'est des brandines, voilà. C'est le nom, c'est nous qu'on l'appelle comme ça.
Et donc c'est des filets qui sont circulaires aussi.
Hein, oui. Et ça c'est les filets. C'est-à-dire que, comme vous savez, quand ça salit, il faut lever, vous mettez l'autre propre. Voilà. C'est un travail qui se fait, quoi. Faut être... Parce que pour pêcher le poisson, le filet, il faut qu'il soit propre. Pour pas que ce que ça fasse quand c'est le... Parce qu'il y a beaucoup de l'arbre, c'est des choses qui se collent dessus.
Vous avez les doigts déformés? Bah oui, ça doit vous gêner un moment pour faire le filet,
ouais,
non?
Oui. Ah, mais c'est vrai que nous les pêcheurs, on a toujours des doigts un peu qui s'en vont. Hein. Et puis t'es tout le temps dans l'eau, l'hiver pareil, là, c'est rude, hein, l'hiver. Hein.
Est-ce que vous avez un souvenir de pêche que vous aimeriez partager?
Vous savez, le souvenir de pêche partagé, nous, on a toujours travaillé en famille. On se partageait tout. On travaillait ensemble, et on se partageait tout, quoi. Le filet, et puis le gain, quoi. Il fallait travailler, il faut gagner ça aussi. Mais il y a eu beaucoup de choses, quoi. Avant, on allait, comme vous voyez, j'ai la photo, là, on allait travailler en plage. On tirait la traîne, et on allait poser des filets sur le rocher, pêcher de l'angouste, du homard, beaucoup, parce que c'est un plateau, quoi. Il n'y a personne de bouillabaisse, quoi. La rascasse, la vieille, le pajot, voilà. Et à la traîne, tu pêchais beaucoup la sardine, le gascon, le maquereau, quoi. Les mulets, les loups, mais voilà, c'était ce poisson-là qu'on prenait.
Vous avez une recette?
Une recette
de poisson, de coquillage.
Oui. La recette, c'est quand on mange... mettons une dorade au grill ou à l'ocelle qu'on appelle ça, qu'on fait bouillir, là, ça se fait beaucoup ici, les grillades, quoi.
Alors comment on fait une bonne grillade?
Des sarments de vigne, vous nettoyez votre dorade, mais vous laissez les écailles et vous faites cuire, ça cuit tout seul. Quand vous faites un côté, vous la tournez et voilà, c'est pas difficile, hein. Ouais. Puis l'anguille aussi, qui fait le courbouillon d'anguille, hein, qu'ils font là, et qui avec des olives noires, des pommes de terre, c'est un bon plat, l'anguille.
Moi je pêchais à l'arcière, c'est ce que c'est, un râteau avec un manche. Hein.
Josian Isoire.
Je le montre, hein. Vous en avez pour 5 minutes, non?
Non.
Je continue.
Non, continue.
Je continue,
ouais.
Avant, on pêchait à l'arcière, c'est un râteau. Comment je pourrais vous dire? J'en ai un là, en haut du toit, là, juste un petit tout là. Et bien, quand on avait le filet, on racle du bateau, on racle le fond de l'eau avec le râteau. Il y a un filet. Ouais, le manche, là, en bois. Sors-le. Non. Le manche en bois, là, voilà, sors-le. Ah, c'est lourd, hein. Ça, c'est historique, vous n'en trouverez plus, c'est fini. Alors, on lavait les filets. Le sable, en lavant le filet du bateau, il tombait par terre. Les petites palourdes, comme des lentilles. Chaque mois de mars-avril, il y avait une ressource. Il y avait un renouvellement de petites palourdes, de tout. De petites moules, de petits poissons. On savait qu'au mois de mars-avril, il y avait un renouvellement. Mais naturellement, parce que nous, mais quand on avait le filet, les petits toules comme des lentilles, pas lourdes. Mm-hmm. Elles retombaient au fond de l'eau, elles s'enterraient dans le sable ou dans la terre, au fond de l'étang, et elles grossissaient. Mais un jour, les marailleurs, ils ont acheté 2 francs, 1 franc, les petites palourdes, comme l'angle.
Voilà.
Voilà, c'est ça, mais... Et malheureux, ça garde tous les trucs, je pense, moi. Regarde, ok, ça c'est historique, ça. Attends, ça fait un poids, tu m'as fait. Moi, j'ai travaillé 40 ans avec ça, là. Là. Et ouais, à l'improviste, comme ça, je suis
plus au début. C'était si lourd.
Vous voyez, on mettait le filet, regardez. Regardez comment c'est.
Et voilà, les mailles étaient larges.
On mettait le filet comme ça, là. À l'intérieur de mon bateau, hein, bon, mais avant j'avais le barque en bois, plein de goudron, hein, à rame. Je la balançais les mains à rame. Et je portais les palourdes à bousigue. Et je revenais à rame. Mais comme j'ai oublié d'être bête, hein, je prenais un drap de ma mère, hein, avec un piquet en bois. Et s'il y avait un petit air de bousigue, il me ramenait. Et avec la rame, je faisais le gouvernail.
Oui.
Et pardi. Alors regardez-moi bien, on était à bord du bateau. Hein, on le prenait comme ça, là. Mais la manche était plus longue, hein. 7 mètres minimum. Ça pouvait aller jusqu'à 11 mètres, la manche. Mais après, il fallait le monter, parce que là-dedans, il y avait des pierres, hein, des palourdes, il y avait de tout.
Et
on le prenait comme ça, là. Là. Et on le jetait à 2 mètres, 1,50 m, 2 mètres. Et au fur et à mesure, le manche, on le faisait là. Quand on arrivait au bout, là, ça coulait avec le poids. Et ça, avec l'eau, c'était comme ça, regardez. Vous voyez ?
Oui, je vois bien. Bonjour.
Voilà. Alors, regardez comment on faisait. Une fois que l'acier était au fond de l'eau, on faisait comme ça, là. J'avais des poils, moi, à force, genre.
Ah oui.
On avait l'habitude, à force. Hein.
Ouais.
Comme ça, là, comme ça. Et on faisait ça. Et dans la tête, hein, on ressentait, ça faisait crac, 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 on savait, vous voyez. Et des fois, elle n'arrivait pas à se planter. Donc, on faisait ça, comme ça, dans le haut du bateau. Et on tirait. Comme ça. Et on avançait pendant 1,50 m. Bon, je ne pêchais pas de marmite à l'époque, je ne pêchais pas lourde. Vous voyez. Et après, je vais vous expliquer, quand le salabre était plein, on le sentait parce que quand il est plein, le salabre, de pierre et de tout, les dents se déterrent. Vous voyez. Et après, on montait comme ça, là. Avec les deux mains, comme ça. Là. Et il nous faut arriver à fleur du bateau. À fleur là, à la bande du bateau, où il y a l'ancre là. Là, on l'a tourné. Vous voyez comme ça. On l'a tourné. Excusez-moi. Regardez, on l'a tourné. Et on le posait sur le bateau. Ça c'est le bateau, la bande, où il y a l'ancre là. Vous voyez là, voilà. Et on prenait ce corps là, moi. Et moi je faisais comme ça là.
Ah, tu tirais, le fond, d'ailleurs. Tu tirais par le fond, d'accord.
Vous voyez. Et on faisait ça, dans l'eau. Tout le sang là, il tombait là. Les petites palourdes, de tout. Il ne restait plus que les pierres, 4 8, 4 moules et des palourdes.
Alors, oh, bon,
on avait une grosse poignée. Mais à l'époque, on faisait des beaux, qu'on appelle des coups de 2 kg, 3 kg palourdes à l'époque. Moi, je faisais des 80 kg palourdes à l'époque. Maintenant, on n'arrive pas à faire un kilo.
Ouais.
Voilà. Et après, quand c'était fini, tous les restes, on fait comme ça là. Voilà, là, là. Voilà, comme ça.
Voilà,
et on rejetait tout au bord de l'étang, au fond de l'étang, là, comme ça. Et on la reprenait, et on la jetait là-bas, ça retombait,
et voilà, on recommençait.
Et on recommençait. 5 heures par jour.
Ah là là.
Putain,
c'est
dur.
Sport, hein.
Combien tu ramenais de palourdes? Combien de kilos de palourdes tu ramenais?
À l'époque, on faisait des coups d'arcière de 3 à 4 kilos.
Et t'en faisais combien par jour?
Ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était en francs, ouais. Je gagnais bien la vie. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de charges et on gagnait bien la vie. On était heureux. On n'avait pas de patron. 8h midi, 2h, 6h. C'était pas les 35 heures comme maintenant. Avant, c'est 8h. Moi, je me suis cassé de l'école, je me suis évadé, disons. J'étais trop enfermé. Je ne pouvais pas supporter la... les instituteurs, ils étaient trop sévères, hein, trop... Non. Moi, j'étais épris de liberté, quoi, disons. Hein. Donc, j'ai préféré, à 12 ans, quitter l'école. Hein. Mon père, il m'a dit, mais, tu veux quitter l'école, hein, va-t'en à prendre la salle à rame. Hein. Et comme on était 10 frères et sœurs à la maison, dans 20 mètres carrés, à l'époque, hein. Et va faire 4 par jour, là, tu nourriras ta famille. Hein. Voilà. Je partais, j'avais pas d'heure. Hein. Si j'avais envie de partir à l'été à 5h du matin ou 4h, hein, je partais. À Rame, hein, à Balaruc, de partout. Et si j'avais envie de partir à 10h du matin ou 11h, j'arrivais à 6h du soir. J'étais libre. C'était ça ma vie. Et je ne le regrette pas. Je l'ai payé cher, mais en fait tant pis. Parce que je ne suis pas instruit, hein, mais je ne suis pas bête non plus. Je sais lire, hein, je ne fais pas de fautes d'orthographe, hein, je lis beaucoup. Je suis pas bête, hein. Voilà. Mais la liberté, moi, je sais pas, la liberté, c'est une richesse, quoi. Moi, j'ai choisi ça. Voilà. Moi, j'ai choisi la liberté. Que d'aller faire le coup, d'aller faire le con au cul d'un patron et payer au SMIC. Et t'as pas de remerciement.
La Pointe Courte, quartier de Sète. Village de pêcheurs, au bord de l'étang de Thau. Georges Brel. Josian Isoard. Pascal Larderie. Le Daü vous dit à bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture, il y en a pour tous les goûts.